Bonjour Stéphane Travert.
Bonjour.
Lors de la deuxième session des États généraux de l'alimentation, il y a un mois, le président de la République a annoncé une mesure qui a suscité un réel enthousiasme chez les agriculteurs, partir du coût de revient pour fixer le prix de vente des produits agricoles. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est le processus de mise en œuvre de cette réforme ?
Eh bien aujourd'hui, nous allons avec l'ensemble des acteurs, les producteurs, les transformateurs et les distributeurs et leurs représentants, signer une charte. Une charte d'engagement, politique et morale, qui va faire que demain, nos relations commerciales vont changer dans le pays. Nous allons prendre en effet la mesure de ce que doit être une relation commerciale de confiance entre les différents acteurs. Chacun a bien compris que les agriculteurs devaient vivre de leur travail, vivre et avoir des revenus décents. Et chacun a bien compris que nous ne pouvions pas continuer les relations commerciales de la manière dont elles se passaient depuis un certain nombre d'années. Donc nous avons choisi de construire le prix différemment, c'est-à-dire tout simplement partir du coût de revient des agriculteurs pour déterminer la manière...
Ce qui leur assurera une marge forcément de
bénéfices. Ce qui va leur
assurer
à la fois une marge, qui leur permettra d'avoir cette capacité à innover, cette capacité à investir, cette capacité à aller de l'avant pour redonner de la compétitivité à la ferme France. Et c'est bien ça l'engagement qui est le nôtre. Notre travail, c'est de redonner des marges de compétitivité aux agriculteurs de ce pays.
L'annonce avait été faite par le président de la République le 11 septembre. Ça fait un petit peu plus d'un mois, en fait, donc, ou 11 octobre.
11 octobre,
11 octobre, Rungis. C'est bien ça, oui, ça fait donc un mois et quelques jours. Ça a été très vite. Est-ce que ça veut dire que ça a été facile? Tout le monde était d'accord? Tout le monde a joué le jeu de bon gré?
Non, rien n'est jamais facile, mais il a fallu discuter et nous avons négocié pas à pas avec chacun des acteurs. Chacun a montré de la bonne volonté, en tous les cas, parce que c'est quelque chose d'historique que nous avons réussi peut-être aujourd'hui, parce que mettre autour de la table des gens qui ne se parlaient plus, des gens qui ne travaillaient plus ensemble, pour ainsi dire, eh bien, nous avons réussi à faire en sorte qu'il y ait un dialogue à la fois apaisé, que l'on puisse négocier un texte commun, un texte d'engagement qui sera là avant le projet de loi sur lequel nous allons travailler en début d'année et qui viendra, je dirais, bloqué dans le marbre de la loi, le futur des relations commerciales de notre pays.
Ce dispositif sera-t-il contraignant? C'est-à-dire que celui qui ne voudrait pas le respecter s'exposerait-il à des ennuis?
Ah, je sais pas, des ennuis, peut-être bah, pas, mais disons que...
Vous savez que les agriculteurs qui étaient enthousiastes s'inquiétaient aussi de la surveillance, de l'arbitrage, du respect du dispositif.
Il est nécessaire d'évaluer les dispositifs que nous mettons en place, il est nécessaire de mettre un certain nombre de sanctions après à déterminer quel est leur poids, où est le curseur, si les engagements ne sont pas respectés. En ce qui nous concerne, les engagements de cette charte, ils sont simples. C'est de faire en sorte que dans les négociations commerciales qui se sont ouvertes début novembre, nous puissions tenir compte de l'état d'esprit des États généraux, c'est-à-dire entraîner tout le monde dans le même sens et faire en sorte que dans ces États, dans les futures négociations qui vont démarrer, eh bien que le sens de la responsabilité et de l'éthique soit au rendez-vous et que les agriculteurs puissent demain retrouver confiance dans leur travail et retrouver confiance dans leur avenir.
Parlons un peu de l'agriculture biologique, si vous voulez bien. Vous aviez annoncé la fin des aides au maintien à l'agriculture bio pour les porter sur les aides à l'installation. Pour vous, c'est le marché qui doit assurer le maintien. Pourtant, un amendement déposé par un député LREM dans le projet de budget 2018 a rétabli les aides au maintien jusqu'en 2019. Est-ce que le gouvernement va faire supprimer cet amendement?
Non, ce n'est pas vrai. Il y a un mélange des choses. D'abord, il y a les aides au maintien qui sont constituées par le FEADER et cofinancées par les aides européennes. Et puis, d'un autre côté, il y a un amendement qui a été déposé par un député, mais qui concerne un crédit d'impôt. Crédit d'impôt, d'ailleurs, sur lequel nous nous étions engagés, puisque nous avions dit que le crédit d'impôt bio qui existait pour l'année 2017, nous souhaitions le prolonger et l'amplifier pour l'année 2018, et nous allons bien évidemment faire en sorte que cet amendement gouvernemental puisse être déposé et discuté. Mais là aussi, faisons attention. Aujourd'hui, nous souhaitons que l'agriculture biologique prenne un pas supplémentaire. Nous avons besoin de nouveaux agriculteurs qui s'installent en bio, et donc nous avons fait le pari de la conversion. Nous avons fait le pari que l'agriculture biologique, parce qu'il y a une demande sociale très forte, puisse répondre aux attentes de nos concitoyens.
Et donc, et la suppression des aides au maintien ne mettrait pas des exploitations en danger.
Les aides au maintien ne sont pas supprimées pour tous les dossiers qui sont en cours, tous ceux qui ont choisi de s'installer depuis quelques années, tous les dossiers en cours sont bien évidemment maintenus, mais nous avons souhaité faire en sorte que, puisqu'il y a une demande sociale forte sur l'agriculture biologique, eh bien, pensons que parfois le marché peut satisfaire l'émergence d'une filière économique, et nous pensons que nous pouvons plutôt aller aider celles et ceux qui seraient plus en difficulté pour s'installer, pour avoir accès au foncier, pour démarrer une nouvelle filière en agriculture biologique.
L'entrée en application du CETA, le traité avec le Canada, traité commercial à titre provisoire avant son éventuelle ratification, a suscité certaines inquiétudes sur ses conséquences sur l'agriculture française. Le gouvernement a dit que le traité était sous surveillance. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Parce que la France n'a pas le droit d'appliquer le CETA à la carte, c'est à prendre ou à laisser.
Mais il est sous surveillance, c'est exactement ça. Le plan d'action que nous avons proposé, c'est mobilisation et contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire simple, nous n'avons pas le droit, en France, de produire du bœuf aux hormones. Eh bien, parce que nous n'avons pas le droit d'en produire. Eh bien, nous n'acceptons pas que du bœuf aux hormones puisse venir sur le sol français. Et donc, si demain du bœuf aux hormones vient sur le sol français au regard des accords commerciaux qui ont été portés, eh bien, il va falloir informer les consommateurs. Il va falloir évaluer les quantités. Il va falloir identifier d'où vient ce bœuf aux hormones. Il va falloir identifier la provenance du produit. Il va falloir identifier sa traçabilité. Et donc, nous allons travailler notamment sur l'étiquetage, c'est-à-dire l'information et la transparence auprès du consommateur.
Ça veut dire que la France pourrait ne pas ratifier le traité si le danger pour l'agriculture ou pour les conséquences sanitaires étaient jugées trop lourdes?
Non, la France a dit qu'elle ratifierait le traité, mais justement, nous avons mis un plan d'action pour nous prémunir d'un certain nombre de difficultés et pour anticiper justement les questions que peuvent se poser légitimement nos éleveurs. Et nous étions dernièrement à Bruxelles avec la filière bovine européenne dans le cadre de la COPACO-GECA, et je peux vous dire que les arguments qui ont été passés auprès de Phil Hogan, le commissaire européen, ont été clairs. Il faut défendre la filière bovine européenne et avant tout remettre de la transparence et de la lisibilité sur les traités commerciaux qui sont en cours.
Vous serez demain en Allemagne pour la COP23. Oui. Les grands rendez-vous de l'écologie sont souvent vus par les agriculteurs comme des moments où on va leur chercher des poux dans la tête, on va leur imposer de nouvelles contraintes, de nouvelles normes. Ça n'est pas pour ça que vous y allez?
Bon, moi j'y vais parce que, d'abord pour une bonne raison, c'est que nous allons recevoir un prix. La France va être récompensée pour l'initiative 4 pour 1000. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est quelque chose qui est reconnu aujourd'hui sur le plan européen. Vous savez, les agriculteurs, ce sont les premières victimes des changements climatiques. Les agriculteurs, ce sont les premiers acteurs de la transition écologique. Et moi, je dois être à bonne parce que moi, j'accompagne les agriculteurs. Je défends les agriculteurs dans cette transition et je veux les accompagner pour que demain, notre agriculture soit plus durable, soit plus performante sur le plan social, économique et environnemental.
Merci Stéphane Travers.
Merci à vous.
Bonne journée.